Bonjour et bonne année à tous. Je suis Patrice Marcadet et je suis très heureux d'ouvrir la saison 2023 de Et Maintenant avec le témoignage de mon ami Aimé Rangeard. Chacun sait que dans la vie, l'important n'est pas tant la destination, on la connaît, que le chemin. Or, comment se dessine-t-il? Surtout pour une artiste, à coup de petites décisions de « et maintenant » qui donnent un style à notre existence. Drame psychologique, comédie, aventure, policier, celle d'aimer, pour moi, est plutôt de l'ordre du conte. C'est pourquoi j'ai appelé l'épisode « Il était une fois » Aimé Rangeard. Aimé, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ?
Ah, vaste sujet, j'ai envie de dire. Mais tout d'abord, tout comme toi, j'ai envie de souhaiter mes meilleurs vœux à toute la communauté. Je suis Aimé Rangeard, née Ratier, en Limousin, plus précisément à Chaptelat, patrie de Saint-Éloi. Je dis ça parce que ce n'est pas neutre dans le dessin de mon chemin. J'ai 75 ans et sur ce quart de siècle, bien sûr, j'ai parcouru du chemin, des étapes, des retrouvailles en oasis. Et au cours, comme pour chacun, eh bien, j'ai pu avoir miracle quasi magique et épreuve. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai rebondi sur un certain nombre d'entre elles.
Oui, ça on peut le dire et c'est pour ça que je suis très heureux que tu sois là parce que on peut dire que ton parcours est jalonné de rebonds, de moments où il a fallu prendre des décisions de vivre ou de mourir, en fait. Et donc, je voudrais qu'on revienne une seconde sur l'histoire de Saint-Éloi que tu as évoquée. Tu sais quel est de quelle corporation il est le patron ?
Oh, ben des orfèvres, un homme en or.
Un homme en or. Mais je trouve qu'il est aussi le patron des orpailleurs.
C'est vrai, et il a sévi à Chaptelat, donc, si je puis dire, et à un ruisseau qui passe par là, et qui s'appelle Laurence.
Ouais. Je trouve merveilleux que tu sois né dans la ville du saint patron des orpailleurs, parce que chercher de l'or dans le sable, dans la boue, c'est un peu ton truc.
Ah, belle image, je t'en remercie.
Bon, donc, prenons les choses dans l'ordre. Quand tu étais à Chaptelat, tu étais où ? Dans quel genre de maison, dans quel ton enfance à Chaptelat, c'est une enfance de petite fille qui vivait comment ?
Misère noire. En tout cas, celle comparable au blé noir. Hein, c'est un livre régional, mais avec qui j'ai eu beaucoup de résonance. Et donc, je vivais avec mes parents, ma grand-mère, ma tante et un oncle, donc son mari, dans une maison de 3 pièces. Donc, nous étions 9, en fait, à vivre dans 3 pièces. Et cette maison datait de 1666. C'était l'ancienne maison d'un chanoine. Et elle n'avait pas beaucoup évolué, si ce n'est que son immense cheminée qui pouvait accueillir un tronc d'arbre avait été séparée. et que sur l'autre côté, qui était comme un débarras, eh bien c'était là où je dormais avec ma grand-mère. Sur l'autre partie, juste pour la décrire un peu plus, c'était un sol de terre battue avec des petites pierres qui étaient emprises dans cette terre. Et c'était bizarre pour balayer, mais j'y arrivais et j'adorais donner ce coup de balai. Tout ça, pour moi, était un décor, la scène de ma vie limousine. Après, qui s'est élargie un petit peu, mais...
Donc, tu aurais pu, en fait, y passer ta vie et ne pas en sortir.
Oui, si ce n'est que j'ai eu, ce que j'appelle des bénédictions. Celle de Saint-Éloi que je me suis redonnée qu'après, je ne pouvais pas la connaître dès ma naissance, mais j'étais contente qu'il soit à la fois orpailleur et surtout bienveillant, qu'il ait cette aura, cette bienveillance. Il y avait la source de Sourue qui faisait des miracles, pas très loin de chez moi, chez un autre oncle. Il y a eu ce que j'appelle la bénédiction de mon prénom, pareil que je connaissais pas à l'origine. Je la prononçais phonétiquement.
Aimé.
Et un jour, j'ai compris que c'était affectif, parce que je l'ai beaucoup aimé. Mais j'ai dit, mais est-ce que ça correspondrait pas à moi? Ce qui m'a été confirmé. Et ce qui m'a été confirmé à ce moment-là, et ce qui m'a été confirmé il y a 15 ans, donc j'avais plus de 60 ans, lorsque, pour son mieux-être, j'ai interviewé avec ma fille à mes côtés, ma mère. Et j'avais choisi, pour qu'elle soit à l'aise, de parler, qu'elle parle que de son enfance jusqu'à la naissance de notre fratrie. Et là, elle me dit, mais oui, Aimé, eh bien, mais c'est, tu sais, c'est pas un hasard, alors qu'ils voulaient un garçon, mes parents. Je suis arrivée en fille. Et on t'a appelé Aimé comme Monsieur Rodier, cet homme si ouvert, si bienveillant, qui était instituteur, et que par la suite, moi j'ai aimé beaucoup, mais sans savoir ça, et sans savoir qu'il débarquait à la maison en disant « Mais où elle est ma petite Aimée ?» Eh bien, depuis ses 15 ans, la petite Aimée continue à le remercier.
Très bien, très bien, très bien. C'est une histoire, en fait, de conte. Moi, je te vois bien dans un conte. Et tu es un personnage, pour moi, tu es un personnage de conte. Je ne sais pas si c'est Cendrillon, si c'est... Mais comme tu...
J'ai une idée. Ah, mais je te laisse poursuivre.
Oui, je pencherais plutôt pour Cendrillon, et une Cendrillon qui va fréquenter les palais après, exactement comme le personnage du conte. Et donc, mais à quoi tu pensais ?
Je pense qu'il y a un peu de ça, mais initialement, un peu en amont de ça, je serais l'équivalent féminin du petit poussé.
Ah oui.
J'étais vraiment sur ces chemins du Limousin, et des fois j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je sauve, entre guillemets, ma famille et notamment mes frères.
Oui, c'est tout à fait ça. Et donc tu avais des bottes de 7 lieues, et les bottes de 7 lieues
des sabots
des sabots de 7 lieues. Mais ça a été quoi, tes sabots de 7 lieues? qui t'a permis de franchir les étapes?
Mais ça a été de toute façon un élan, bien sûr, une envie, ouais, toujours de faire ce pas supplémentaire, ce premier pas. Si tu fais le premier pas, après, le voyage se fait. Mais ce premier pas, j'ai eu à en faire plusieurs. Mais dans ce premier pas, j'ai quand même eu de l'aide bienveillante. Par exemple, lorsque j'ai quitté mon Limousin toute seule pour venir sur cette ville riche, entre guillemets, de Niort, évoluée en tout cas, et pour entamer mes études, pour avoir la chance de faire des études. Et ça, j'avais bel et bien été poussée auprès de mes parents par ce cher monsieur Rodier, qui revient, et par un autre couple d'instit également, monsieur et madame Lespara. Donc, même ce premier pas, où il faut être volontaire, je dois dire, chausser ses sabots, mais tu le fais pas tout seul, il y a cet environnement.
Oh, tu as eu des bonnes fées, si on peut dire.
Voilà, j'aime employer ce mot un peu de... Alors, je parlais de bénédiction, mais là, je parlerai même aussi de bienveillance elfique. Ouais. Ouais. Oh, je m'autorise.
Si tu veux, autorise-toi dans un monde un peu magique, un peu merveilleux avec toi. Oui, c'est ça. Et donc, c'est les études qui vont te permettre de faire des pas de géant pour sortir de la condition dans laquelle tu étais.
Oui, c'est-à-dire accéder à plus de connaissances. Je savais que j'étais éveillée. J'avais appris à lire, en tout cas les premières bribes, toute seule dans le journal, le populaire du centre, avant même d'aller à l'école. Mais ça, les lectures que j'avais déjà entreprises, y compris des contes, mais déjà au-delà des contes, m'amenaient vraiment des tas de connaissances et que je voulais enrichir. Et ces autres fondamentaux de second niveau, je dirais, qui faisaient rejoindre... On a parlé de magie, mais en tout cas, toute l'histoire merveilleuse de la Grèce, enfin, la mythologie grecque et romaine, c'était vraiment phénoménal. Et puis, en même temps aussi, le côté scientifique, hein, les deux vont de pair. J'ai toujours dit que j'avais les pieds dans ma terre glaise de Limousine, mais et un peu la tête dans les nuages. Et donc, dans les études, c'était à la fois le côté littéraire et à la fois ce qu'on appellerait le côté scientifique.
À l'heure actuelle, on parle beaucoup des transfuges de classe à propos d'Annie Ernaux, à propos de Ribond, à propos d'un bouquin récent là qui vient de sortir. On parle beaucoup de ça. Est-ce que tu dirais que tu es une transfuge de classe?
Pas du tout.
Pas du tout.
Ah non, je suis pas une transfuge. J'ai toujours tenu à appartenir, et je l'ai toujours gardé, et librement, ça m'a librement accompagné, et je me suis autorisée à le garder avec moi et en faire profiter ces classes dites supérieures.
C'est-à-dire que tu revendiques absolument ton appartenance au monde rural et à un monde pauvre rural?
Oui. Parce que ce monde pauvre est riche, et ça a été mon autre capital. C'est pas un capital élitiste, c'était peut-être un capital inventif, mais aussi de proximité avec la nature, avec mes frangines, c'était mes vaches. Mes vaches, c'était mes sœurs. Je les aimais et elles me le rendaient à leur façon. Et puis cette nature, ce Limousin, aussi beau qu'un Québec d'été indien.
C'est une déclaration d'amour à ton territoire, à tes racines. Et c'est là que tu es encore en avance dans la vision que l'on a actuellement, le discours que l'on tient sur la réconciliation avec la nature, la réconciliation avec le monde animal, végétal, etc. Toi, tu étais déjà en fusion, en communion avec eux.
Oui, et Dieu merci, si je puis dire, j'ai pu le garder et l'enrichir et le partager, le transmettre éventuellement, mais le partager, comme je crois nous faisons un peu ici. Je veux bien rebondir sur ce qui a été mes années collège à New York. Hein, tu m'as parlé oui, de oui. ça, hein, de, cette, oui. de ces avancées. Alors, c'était des avancées. Et ce qu'il y avait, c'est que j'étais grande pour mon âge. J'avais la tête qui dépassait, les pieds qui dépassaient, les bras qui dépassaient pour les embrassades et mes mains tendues. Et ça, c'était quelque peu dérangeant. Et ça a entraîné une certaine surveillance, y compris de mes profs, y compris de la directrice, mais y compris aussi de, par exemple, d'une personne qui a vraiment marqué ces années, qui était une prof, Madame Bastide, Jeanne, pour la citer, et qui m'a aidée à accepter cette tête qui dépasse, ce syndrome de coquelicot, que je ne savais pas ça, elle non plus.
Mais... Le syndrome de coquelicot ?
Oui.
Ça veut dire ?
La tête qui dépasse, ouais. C'est-à-dire celle qui n'est pas complète, même si tu es en groupe, n'est pas complètement dans le rang. Ouais. Et ça m'a poursuivi, je peux le dire. J'ai ouais. des tas d'anecdotes, peut-être qu'on aura l'occasion oui. d'y revenir. Mais je vous ai vraiment souligné cette bienveillance et cette... pédagogie, mais d'ouverture à l'humain de Madame Bastide. Et j'ai retenu d'elle, et on en a reparlé des années bien plus tard, à cette déclaration qui venait même de son père, qui avait été enseignant, donc tu vois, comment on appelait les hussards
Les hussards noirs.
Mais lui, c'était pas un hussard noir, c'était un hussard lumineux. Et qui avait dit à sa fille, qui me l'a transmis, de toute façon, on enseigne, on ne transmet que ce que l'on est. J'ai trouvé ça une formule magique.
Ah oui, ça c'est... Moi je suis convaincu de ça, et c'est ce que... Oui, oui, je me souviens d'un inspecteur qui disait ça. On n'enseigne que ce que l'on est.
C'est vrai, tu en as rencontré?
Oui, oui. Oui, je crois que c'est profondément vrai.
Oui.
On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. Et puis à partir de là, l'enfant, si c'est un enfant, ou l'adulte avec lequel on travaille, se construit quelque chose. Mais c'est profondément vrai. Et donc, ces personnes-là, tu en gardes la trace. Je dirais pas la mémoire, tu en gardes la trace.
Non, elles font partie de moi. Enfin, en tout cas, je m'en suis aperçue dans les épreuves, notamment. Elles font partie de mon tréfonds capitalisé et qui peuvent venir à mon aide.
Absolument.
Si tu le permets, je voudrais, puisqu'on est sur le registre un petit peu de la transmission acquise, et à transmettre, je veux parler, aujourd'hui je ne peux pas faire autrement, d'une autre rencontre, plus tardive, mais avec un ami qui a pu me parrainer et me conforter dans mon envie forte, puissante, un besoin véritablement de d'aider à la consolidation et à l'élargissement du bien-être personnel et du bien-être de groupe. Et cet ami-là, c'est toi, Patrice.
Bon. Alors, écoute, j'en rougis de confusion, mais tu as fait avec moi, avec ce que nos rencontres, avec ce qu'on... Tu as fait ce que tu pouvais, mais c'est, moi je suis de la matière première, si tu veux. Je suis, j'ai toujours considéré dans mon métier de formateur que les gens pouvaient transférer sur moi comme sur d'autres personnes, et après ils en font quelque chose ou ils n'en font rien. Oui. Mais le talent, si tu veux, c'est savoir faire quelque chose des rencontres que le hasard nous offre, mais ça se rencontre, ce talent-là, il t'appartient, c'est pas moi, ça, c'est, il t'appartient, mais enfin, je te remercie de l'évoquer. Bon. Alors, comment elle s'est dessinée, cette vie professionnelle?
Dessiner, eh ben, je vais rebondir là-dessus, parce que j'ai été en stage dans une entreprise new-yorkaise, Eno, qui faisait des fours, où il y avait une fonderie, des appareils, des rôtissoirs, et à ce moment-là, il y avait... Pendant mon stage, un projet de rôtissoir qui s'appelait Belphégor, elle était déjà nommée, et qui reprenait un peu une forme de hotte. Et mon directeur, chef d'entreprise, ayant trouvé à la pause du déjeuner un dessin dans mon tiroir, j'ai cru que j'allais être... tensé, vertement, et que mon rapport de stage allait en souffrir. Mais non, autre magie, il en a profité pour me demander de dessiner ce fond de rôtissoir. Et ce fond de rôtissoir a été retenu en deux modèles. Un modèle général, je dirais, le plus commun, de fleurs, qui devait passer à la fonderie. Hein. Donc, ce n'était pas juste un dessin et une peinture ordinaire. Et un inventif fait de poules, de coques, quasi inca, péruvienne. Et celui-ci, que j'aimais beaucoup, a été retenu pour le BHV. Donc, je voulais dire que là, il y avait déjà un mélange à nouveau de choses cadrées et de choses hors cadre. Puis, comme j'attendais un enfant, un enfant conçu avec un monsieur musicien aux petits doigts qui touchent, c'est-à-dire un accordéoniste, et parce que cet enfantement, la durée de grossesse, la grossesse n'était pas très agréable, j'avais failli la perdre et j'avais tenu absolument à la garder, à l'accrocher en moi, J'ai choisi l'opportunité de rejoindre la fonction publique. Et là, c'était en préfecture. Donc, je suis rentrée par la plus petite entrée de la préfecture. Mais elle a très vite évolué.
Oui, bien sûr. Et la plus petite entrée, c'est-à-dire le grade de cadre C ?
Oui, c'est ça. Oui, c'était déjà pas mal. Tu
oui. Oui, oui, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que donc la fée s'était penchée sur toi avec cette histoire de Belphégor, de dessin, de reconnaissance par le monde de l'entreprise. Tu avais encore, tu as rencontré pour la première fois un homme qui, de figure d'autorité, qui a salué ton talent alors qu'il ne s'y attendait pas. C'est très important cette idée de surprise, parce que c'est vraiment ça dans le conte, c'est très important que les faits ne soient pas trop attendus.
Et il m'a gardé 2 ans dans ce à travailler là-bas. J'adorais descendre, voir les équipes, jeter un œil à la fonderie. J'allais partager une orange, tiens, avec mon mari. Qui ne l'était pas encore, et avec d'autres personnes qui adoraient échanger avec moi. Alors on faisait court, mais c'était toujours un moment agréable.
Ouais. Bon, donc tu embrasses, si j'ose dire, la fonction publique, tu embrasses la préfecture, et de cadre C, tu commences à monter les marches.
Oui, et donc dans la fonction publique, hein, ça se passe sur concours, et à cette époque-là, les concours, les résultats des concours, eh bien ça a alimenté les besoins de région parisienne. Et donc là, j'ai franchi un pas hiérarchique, j'allais dire, et un pas géographique, un autre. Et j'ai atterri en région parisienne. J'habitais à Aulnay-sous-Bois et ma préfecture était la préfecture du 93, Bobigny, dans sa haute époque.
On est dans quelle année là ?
Oula, c'est les années 70, hein, je débarque en 70. Et là, j'évolue aussi. Il y a plein de choses qui se passent. Tiens, je rencontre Eddy Mitchell, mais ouais, qui était, comme on peut l'imaginer, tout à fait bougon au guichet de la préfecture, et qui est parti avec le sourire et en rigolant. La personne qui était censé le servir ayant paniqué. Et donc j'étais venue à l'aide. Et donc voilà, plein de choses, et y compris la découverte de nouveaux amis et d'amis qui venaient de toute la France. Donc cette espèce de monde cosmopolite, dans ce monde rigide, mais donc il y avait des tas de possibilités. Et je me souviens notamment de ces Français d'outre-mer. Eh bien, je les adoptais et ils m'adoptaient. Et ça leur faisait un bien immense. Et tout ça m'a permis de monter une association.
Une association de
Des collègues, hein, des fonctionnaires de la préfecture. Et également, d'ailleurs, aussi une section syndicale. Tout ça faisait bon ménage, si je puis dire. Ça interpellait. Ça interpellait.
Ben oui, tu commençais à être une meneuse, donc tu avais de l'influence sur les autres, tu polarisais l'attention sur certaines questions, sur certains sujets, et donc par voie de conséquence, tu pouvais devenir potentiellement dangereuse.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est toujours un numéro d'équilibriste. D'un côté, tu as le danger, enfin en ce qui me concerne, hein, je parle pour moi, de moi. Et de l'autre, cette merveille sur la corde raide, oui. Hein, cette magie. Mais au milieu, il se passe des choses pour des tas de gens quand même, oui. Des tas de gens. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à être un petit peu pointée du doigt, mais aussi à constater là que les gens venaient vers moi, alors en toute humilité, hein, mais surtout des gens qui avaient un besoin de fraternité, bien sûr, mais qui n'étaient pas comblés ailleurs, et ils pensaient que ça serait... Et peut-être accessible avec moi.
Ah oui, comme par hasard. Bon.
Voilà, comme par hasard, j'aime bien, hein, parce que moi, j'ai vraiment appelé ça, pour eux et pour moi, des heureux hasards, avec un ouais. Z.
Ouais. Mais toute ta vie est peuplée d'heureux hasards. Il y en a tout le temps. Bon, donc... là, on est à Bobigny.
Et à la cité Balagny.
Et à la cité Balagny, donc dans les années 70, dans la banlieue parisienne, et avec une petite fille en bas âge.
Oui, qui m'a rejointe, nous a rejointe. J'ai osé aller frapper à la porte d'à côté, quelqu'un a bien voulu la garder. Elle a eu, l'école était pas loin, elle a eu pareil des enseignants, pareil de bienveillance. Et la cité Balagny a tout de suite proposé que je sois représentante des parents d'élèves.
Comme par hasard.
Comme par hasard. Voilà, et puis on a formé un groupe de parents et je dirais un groupe pareil de intermédiaires là, des frères et sœurs aînés, je dirais plutôt des sœurs aînées, parce qu'il y avait beaucoup de personnes du Maghreb. J'ai même vu, hélas, une amie cher marié de force, et à qui j'avais pu donner quelques indices pour dire que malgré cette prison première, elle retrouverait des espaces de liberté. Je l'espère, je l'espère encore et j'en suis sûre.
Et puis après, vous n'êtes pas resté à Bobigny ?
Non. Alors que ma fille devait rentrer en sixième, je trouvais que ça formait un cercle, une boucle, une première boucle sur le chemin. Et pour pas qu'elle pâtisse de la seconde, donc nous sommes revenus sur Niort. Et ça a été, voilà, un autre épisode. Et... Allez, pour la magie. Un jour, ma fille me parle d'une prof qui lui a dit « Mais tu saurais pas la fille d'Aimé Ratier ?» Et c'était Madame Bastit qui l'avait reconnue à la forme de ses sourcils et à sa manière d'être.
Donc, vous rentrez, puisque vous revenez à Niort, et vous vous installez là, et toi, tu poursuis ta carrière.
Oui, tout à fait. D'abord, en récupérant un siège, parce que quand je suis arrivée, on m'a dit, non, prends pas ce... J'avais un bureau, mais prends pas ce siège, parce qu'un tel a voulu le réserver. Alors, qu'à cela ne tienne, il a récupéré son siège, moi j'en ai eu un, et j'y ai bien vécu. J'y ai bien vécu à la fois en... Toujours, hein, en voulant faire le mieux, dans le cadre de mon travail. Et là, j'y ai vraiment, j'ai souhaité y apporter une dimension quasi systématiquement transversale. Oui, j'ai osé, dans un milieu très vertical et hiérarchisé, j'ai osé faire ça. Non pas pour ma gloire, mais pareil, pour le mieux, mieux travailler, mieux se connaître, mieux faire évoluer nos métiers, mieux se former. Voilà, et donc, cette transversalité a apporté beaucoup de choses à la préfecture et aux ce qu'on appelait les services déconcentrés. Je pense à la DDTE, c'est-à-dire à l'emploi, à la DDE, à la santé, etc. Et déjà, j'ai constitué et animé des groupes avec des gens bien plus élevés hiérarchiquement et d'autres. Je tenais absolument qu'il y ait des gens qui faisaient chez moi le faire est toujours important et doit si pas être en amont, mais tout de suite intervenir après la pensée.
Oui, qu'il y ait une liaison, qu'il n'y ait pas les sachants et les exécutants.
Ah oui, ça vraiment, vraiment. Et alors ça, je pense l'avoir beaucoup transmis et ça a vraiment apporté beaucoup de mieux. Et j'en suis plutôt fière.
Oui. Bon, et même si ça n'a pas été toujours facile et si c'est passé comme ça.
Non, il faut absolument que je parle d'un épisode. Alors, c'était pas facile, mais je pouvais m'en accommoder avec donc des amitiés qui se créent sur ce bon terreau. Et puis, mais évidemment, beaucoup de jalousie, d'incompréhension, alors que souvent j'ai expliqué qu'il suffisait de faire le petit pas, mais ce petit pas est tellement difficile, donc on assène plutôt la baguette de la hiérarchie ou l'attaque ou le harcèlement. Et moi j'ai vécu harcèlement. On disait même pas le mot à l'époque. Il est devenu en même temps que moi. J'aurais préféré ne pas expérimenter. Mais je l'ai expérimenté. Il était, bien sûr, comme tout harcèlement, à vocation mortifère. Ça, c'est au bout de tout harcèlement, hein. C'est la mort, l'anéantissement. Et donc, ça m'a valu des mises au placard. Mais je vous ai déjà dit que j'avais vécu, ma chambre était comme un cagibi, un placard. Donc, ce placard, je l'ai magnifié. Et il est redevenu quelque chose. Mais avant ça, avant de pouvoir magnifier, il faut survivre. Et donc là, j'ai trouvé la force de dire que je n'acceptais pas l'étoile jaune qu'on voulait me coller. Ça me rappelait d'ailleurs des souvenirs encore récents hein, de la période de franco-allemande et de guerre et de résistance. Donc disons que j'ai opté pour la résistance. Ceci m'a, le fait de survivre m'a sauvé moi-même, et puis Ensuite, il faut que j'accroisse le sujet. J'ai expérimenté ça, mais c'est pas possible que d'autres vivent ça, et notamment des femmes. Hein. Je pensais surtout aux femmes à ce moment-là, mais il y a d'autres circonstances. Il y avait d'autres, des messieurs hors genre, par exemple, ou pas de ce genre, on va dire. Et j'ai approfondi le sujet. Alors j'avais tous les exemples et les illustrations possibles sous les yeux, mais ça le validait quelque part. Et ça validait la possibilité qu'ensuite j'aide, là c'est même de la protection, je ne parle pas de sauvetage parce qu'il n'y a que la personne qui peut se sauver, mais d'aide, hein, de repérage, de contexte, de danger et de protection. Et la protection première et seule opérante, c'est, alors qu'on pourrait dire, mais si je lui explique, un jour il va bien finir, il voit bien que je ne suis pas menaçante, que je... Non, ça ne fonctionne pas. La seule chose, c'est l'éloignement. Un véritable éloignement physique. Ainsi, le reste du monde, vos collègues d'abord, pourront librement, un peu plus, vous récupérer, vous dire « Oh, désolé, j'ai pas pu. » Mais moi, je sais qu'ils ne pouvaient pas. Et donc, je leur ai évité la culpabilité également.
Oui, mais quand tu parles d'éloignement, encore faut-il pouvoir s'éloigner. Quand c'est son lieu de travail et quand on est tenu d'être là tous les matins, comment s'éloigner ?
Eh bien, quand j'ai magnifié, hein, on m'avait confié le secrétaire général avec qui déjà j'avais pu un peu m'exprimer et d'une certaine façon l'alerter sur l'acte qu'il était amené à faire. Et il avait bien saisi que même c'était une bienveillance vis-à-vis de lui. Et il m'avait confié quelque chose qu'il n'aurait pas pu confier à d'autres. Encore quelque chose de transversal. Et avec de nombreux textes de loi. Hein. Donc c'était à la fois ardu, mais il fallait aussi avoir une vision plus large. Et donc je me suis employée. Et en même temps, en parallèle, je l'ai traité en faisant un arbre. Et cet arbre, ses ramifications, traitaient en gros tout le dossier, visuellement. Et ça, donc, c'est le dossier parallèle, accessoire, mais qui a accompagné le dossier de base que je lui ai remis dans des délais très, très, très convenables, voire plutôt bref pour une bonne fonctionnaire. Et là, ça a à nouveau fait écho chez lui. Il m'a appelé pour parler du dossier, mais bien sûr, moi, c'était l'opportunité de parler de la situation. Je lui ai redit qu'il n'était pas question que je garde l'étoile jaune et qu'il était curieux que, en parallèle de ce qu'il avait là, moi j'avais par exemple pu intervenir par un chemin de traverse auprès de collègues du ministère de l'Intérieur et même auprès de ses collègues à lui de la haute administration. Je revendiquais rien, mais j'avais été amenée à le faire en communication orale, en communication écrite, en comment traiter un dossier qui est sur la sellette, etc. Et là, j'ai dit, mais je ne sais pas, posez-vous vous-même la question. Comment puis-je être a priori ça alors que mon dossier le contredit? Et et encensé du côté ministériel. Donc, il a vraiment répondu. Il a vraiment dit qu'il faudrait qu'il allait faire quelque chose pour moi. Et donc, je suis revenue dans la hiérarchie classique, avec des missions pas classiques. Et j'ai eu d'autres tentatives de harcèlement. Et il m'a... C'était donc la preuve qu'il avait tout bien saisi de la situation. Il m'a dit de bien veiller à moi et aux autres situations qui pourraient se produire.
Oui, en fait, il n'a pas voulu être complice d'un harcèlement moral. Maintenant, c'est puni, la loi, je ne sais pas si elle était passée à l'époque, mais enfin, juridiquement, c'est passible d'une peine vraiment, vraiment forte si un supérieur hiérarchique laisse un de ses subordonnés...
Maltraité, oui. Et dangereusement, parce qu'il y a plusieurs maltraitances.
Bon, ça c'est encore un épisode, là, ça fait partie des... Et maintenant, des moments où dans ta vie, il a fallu que tu rebondisses et que tu repartes. Bon, donc, il y a cette partie sur de la fonction publique, le problème du harcèlement, et parallèlement à ça, tu as développé toute une activité à dimension plutôt artistique.
Oh que oui.
Oh que oui.
Ah oui, ça, mais ça faisait partie un peu du conte, un conte est imagé, ouais. Et aussi des lettrines, ça je savais pas à ce moment-là, mais j'adorais ça, quand l'instituteur monsieur Lespara faisait faire une dictée ou surtout un texte, ouais. Il disait toujours de commencer par une lettrine, ouais. Et bon, il adorait les miennes. Bon.
Rappelle-nous ce que c'est qu'une lettrine, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne voient pas.
Eh bien, c'est la première lettre du texte qui est mise en valeur, en quelque sorte qui donne le ton, voire la couleur. Et je faisais les deux. Donc, cette première lettre, elle est encadrée comme au Moyen-Âge. C'était comme ça dans les textes anciens, et souvent, ben pareil, magnifié, c'est un mot qui revient décidément, et voilà, et elle donne cette première tonalité à tout le reste du texte. Et donc quand je suis arrivée en sixième, j'ai fait ça sur ma première rédaction, et là, non, faut pas faire ça. Donc j'ai repris ma lettrine, mais je m'en suis servi ailleurs. Tu me disais le côté artistique. Donc cette lettrine était pour moi fort à propos, me faisait du bien. Ouais, j'ai toujours voulu la garder. Et dans une autre épreuve de santé, où je suis restée un mois dans mon chambre cagibi, où il faisait très froid, c'était l'hiver bien sûr, aux vitres givrées et aux murs moisis, eh bien, ces deux éléments-là ont beaucoup servi mon imaginaire à raconter des histoires dans ma tête, tout en toussant lamentablement, et aussi à avoir des... Oui, à garder ces images-là et à me dire que qu'elle m'accompagnerait dans mon intimement, mais aussi que certainement un jour j'en ferai quelque chose. Et j'ai toujours dessiné. Par exemple, au lycée, il y a une fille qui a nommé son enfant d'un dessin que j'avais fait. D'un garçon, c'était assez rare, de que je dessine des garçons, c'était plutôt des filles, et c'était Gaëlle d'ailleurs. Et puis, donc je dessine toujours, dans différents cadres, etc. Ça me sert en communication, ça me sert dans beaucoup de choses. Et puis, à un moment, il fallait que ça devienne vraiment ce qu'on appelle la patte, ma chose. Et je savais bien que j'étais un peu anticonformiste. J'aimais les règles de base, la technique, c'est essentiel, c'est basique, c'est fondamental. Mais l'art, c'est se libérer, c'est l'acquérir et s'en libérer. Enfin, selon moi, et sans doute bien d'autres grands artistes. Et eh bien, ça s'est fait un jour que j'ai voulu faire quelque chose de particulier pour l'anniversaire de ma fille. Ma fille, la lumière de ma vie. Si je ne l'ai pas employée, je veux l'employer là. Et là, j'ai associé des tas de choses. Des dessins faits par moi. Quelque chose que j'avais sous la main. À portée de la main. Et ça, j'ai dit, c'est ça. Là, un collage que j'avais dans une revue à feuilleter, je ne sais plus laquelle. Et tout ça, magiquement, a pris forme. Et avec également un peu de relief. J'ai dit, mais alors je ne suis plus dans la peinture. Eh bien non, j'étais hors cadre. Mais
Une fois de plus.
Mais ça m'a permis de trouver ma patte, ça m'a permis de l'enrichir et d'avoir un vrai, entre guillemets, style qui s'est lui-même enrichi, bien sûr, et surtout que j'ai pu à nouveau enrichir et transmettre. Et de mes transmissions préférées, c'est bien sûr dans un cadre, hors cadre, c'est au musée d'Agessy à Niort et auprès d'un public qui n'avait aucun accès ni au musée ni à l'art. Et là, avec des personnes en déficience ou en handicap mental ou physique ou les deux, eh bien il s'est passé des choses magnifiques, et ça je le revendique, et parce que ça a été riche pour eux et riche pour moi.
Ça fait partie de tes caractéristiques, c'est ton souci de faire passer, de communiquer, de partager, d'apporter aux autres ce que tu as reçu ou ce que tu as vécu comme étant et que tu vis comme un trésor.
Oui, et un trésor, oui, tout à fait, c'est bien ça, mais un trésor qui est à portée de la main.
Ouais.
Et à la portée de chacun. Hein? Je ne suis pas juste une tête qui dépasse. Et ça, ce trésor, je suis un peu presque là dans la maïeutique. J'aime que, à travers ça, les gens puissent accoucher d'une partie d'eux-mêmes et d'une partie valorisante, insoupçonnée, qu'ils n'auraient même pas osé imaginer.
Bon. Donc tu imagines bien à quel point j'adhère à ce que tu dis, à quel point je le partage.
Ah oui.
Bon, malheureusement, la vie n'a pas été que des découvertes, des reconnaissances comme ça, un peu fortuites, des distinctions. Il t'est arrivé aussi de vivre des moments où le système s'est effondré par suite de ta maladie, par suite de maladies. Et là, il a fallu que tu aies suffisamment de capacité en toi, d'énergie, d'assurance en toi pour pouvoir rebondir, pour pouvoir repartir.
Oui, c'est vrai. Et ça a commencé tôt, et bien sûr dans la misère. Mais je veux revenir à ma chambre très abîmée, là. C'est quand même là.
La chambre noire, comme disaient les photographes.
Oui, c'est, mais c'est... moi, c'était noir et blanc et gris. Et comment là, les moisissures, c'est un vert de gris. Oui. Voilà, et vert de gris. Et ça, j'ai toujours tenu à ne pas avoir ni que du blanc, ni que du noir. Et là, évidemment, j'ai été très malade. Je me suis rendu compte qu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes aussi pour moi. Et donc, là, j'en ai profité donc, pour avoir ces rêves, pour avoir ces images. Mais j'avais quand même hâte de revenir à l'école. De retrouver mes camarades et aussi de pouvoir apprendre encore. Et ben là, j'avais été absente plus d'un mois, et bien le mois d'après, j'ai été première de ma classe. Donc, bien sûr, j'ai été la première surprise. Mes instincts.
Pas moi.
À moitié. Mais je ne savais pas vraiment que je... Donc ça a été ça, une façon de dire « Ah bon, j'ai pu faire ça ?» C'est donc qu'il y a vraiment une capacité du vouloir et du faire. Et oui, ça m'a mené plus loin, ça.
Donc ça, c'était ta maladie d'enfance.
D'enfance. Et il y en a une qui est venue assez vite derrière, dès la préadolescence, et qui ne m'a pas quittée et que j'ai encore, c'est la migraine. Et c'est pas la migraine du 19e, hein, mais les gens croyaient encore ça, hein, que c'était le mal de tête d'opportunité, on va dire. Je veux pas aller, je veux pas faire, j'ai mal à la tête.
La migraine de confort.
De confort. Moi, non, c'est pas celle-ci. C'est celle de grande souffrance. Vraiment, de souffrance handicapante qui te met sur la touche pendant au moins 2 jours, voire 3, et donc qui est une fragilité, et pour certaines personnes du monde extérieur, une fragilité dont on peut user. Hein, j'ai parlé du harcèlement tout à l'heure, par rapport à la tête qui dépasse, aux qualités. Mais là, pour eux, pour d'autres, sans que ce soit aussi prégnant, c'était un outil pour dire « Ah bah oui, elle est encore pas là ». Bon. Ça, j'avais des outils pour le dépasser. Parce que pareil, quand j'ai su ce qu'était la migraine, quand j'ai su quels étaient le contexte, les déclencheurs, les choses qui pouvaient éventuellement soulager, parce que quand on est dans la douleur, c'est d'abord ça. Eh bien, j'ai décidé que j'ai pu me rendre compte d'abord que c'était une chose handicapante, mais dont on ne mourait pas. C'est-à-dire, il y avait cette séquence atroce de 3 jours, mais après, la vie repartait. Ton corps n'était pas atteint, ton esprit n'était pas atteint. Et donc ça, j'ai décidé... Très tôt, là, à l'adolescence, que la migraine ne gouvernerait pas ma vie et ne m'empêcherait pas de faire ma vie. Je dois dire que ça n'a pas été toujours facile, puisque moi qui partais parfois en formation sur Paris, beaucoup sur Lyon, sur Périgueux, et bien ailleurs... il y avait toujours ce risque.
Cette épée de Damoclès.
Oui, et je suis partie des fois, juste il fallait me... Je demandais qu'on me mette dans le train avec le Médoc Miracle.
Et néanmoins, tu ne t'es pas donc laissé handicapé par cette maladie. Tu l'as surmontée et tu en es devenue quasiment experte aussi.
Oui, des fois on peut, ben justement, on peut repérer ce qui pourrait être un déclencheur et l'amoindrir. La tétanie, sans préserver, jamais totalement, si la migraine a elle-même des cycles. Donc souvent, j'ai constaté que ces cycles pouvaient être beaucoup plus larges désormais, depuis que je suis une femme sans menstruation. Donc ça faisait partie des éléments déclencheurs. Et puis bien sûr, ça m'a permis aussi d'aider d'autres migraineux. Je suis allée une fois consulter, parce que là j'en avais de vraiment trop nombreuses, un neurologue, le professeur Gilles, un éminent, hein, vraiment reconnu même nationalement. Et puis bon, j'avais sans doute aussi besoin d'être rassurée un peu plus là-dessus. Et puis, on en a parlé. Il me dit, mais vous en savez autant, sinon plus que moi.
Mais ça fait partie de toi. C'est que tu utilises ce qui t'arrive pour en faire un domaine d'expertise. Et
ça le devient.
C'est-à-dire qu'il y a la dimension... corps, la dimension, et puis tout de suite il y a la dimension intellectuelle, information, connaissance, science, que tu as dit, ton rapport à aux sciences de la vie, à l'école.
Les neurosciences, je te dis pas comment ça me plaît, mais là il y a beaucoup de littérature désormais, et tant mieux, et des acquis. C'est magique. Et alors les neurosciences, c'est aussi, j'ai adoré comment se... Oh, je ne vais pas retrouver son nom, ce scientifique handicapé qui est devenu très, très handicapé. Qui...
Ah oui, oui.
Et qui a tout le temps travaillé et qui a découvert et pu mettre en musique, si je puis dire, les trous noirs. Et maintenant, ça continue. Et alors, la dernière image magique, c'est quand même celle-là de ces... constellation de ces mondes si lointains. C'est beau dans tous les sens. C'est ça que je veux dire, c'est dans tous les sens.
Bon, donc, on arrive à quand même ce qui a été ton accident de santé le plus grave et le plus récent, c'est-à-dire ton cancer.
Oui. Ouais, ce cancer dont j'accompagnais déjà beaucoup de femmes qui avaient le cancer, et nous en connaissons au moins une en commun. Oui, contre vents et marées, je dirais. Et je savais déjà, au moins ça, que chaque cas est différent. Il n'y a pas un cancer du sein. Il y a trop de personnes, trop de femmes, même s'il y a parfois aussi des hommes, ayant un cancer du sein. Mmh. Voilà. Et là, donc, c'est chaque personne et chaque cas, alors il y a des catégories, bien sûr, mais chaque cas est différent, puisque chaque personne est différente. Toutefois, je ne m'attendais pas, bien sûr, à le vivre moi-même. Et pour autant, j'avais repéré cette grosseur qui n'était pas comme les autres. Et comment dire, de toute façon, c'est difficile à dire comme ça avec des mots, mais je le savais intimement. Je savais intimement qu'il y avait quelque chose de mauvais et, si je puis dire, à traiter. C'est tombé au début du Covid. Donc, les radios, tout ça, ne sont pas venus aussitôt. J'ai été obligée d'attendre. J'ai attendu ça, puis une opération bénigne de mon mari, mais qui, dans le couple, avait une prenait beaucoup d'espace. Alors j'ai dit, ça viendra qu'après. Mais ça a été confirmé, et j'ai pu être opéré ensuite assez rapidement. Qu'est-ce que tu veux que je dise autour de ça? Parce qu'il y a la réalité, l'annonce du cancer, et il y a le fait, et ça je l'ai fait en même temps, je dirais, si je puis te dire.
Écoute, moi je pense que ce qui est important pour les auditeurs, c'est qu'on sache, qu'on comprenne bien comment tu as pu surmonter ça, où tu as tiré la force pour ne pas baisser les bras, parce que ça va être un calvaire à épisode, ce qui t'arrive. Oui. Comment tu as fait pour trouver cette force et passer d'étape en étape? Comment tu as fait pour résister? Tu parlais tout à l'heure de la résistance au sens guerrier du terme, mais là tu as résisté comme une vaillante combattante.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit et ce qui a pu surprendre. Mais il y a quelque chose d'indispensable dans tous les cas de figure, c'est d'accepter la chose. Très rapidement, ce qui a été mon cas. Cette acceptation, elle est là dans beaucoup de cas de handicap, de malheur qui parcourent la vie. Hein, et je parle ça pour les auditeurs. C'est comme dans le deuil. Ça commence par l'acceptation. Et ensuite, ben, je dirais que j'ai pas toujours su comment je faisais. J'ai même été des fois surprise par ce qui pouvait émerger. Mais j'ai eu aussi quelque chose de très important. C'était, là aussi je reparle de capital, c'est un capital d'amitié. Et quand je parle d'amitié, c'est « Oh, c'est pas « Oh, ma pauvre aimée !»« Ah là là, ah là là, mais j'ai bien de la peine pour toi !» Non, c'est de la vraie amitié qui pouvait comprendre les choses et surtout juste m'accompagner. Être présent par l'esprit, par la bienveillance, par... voilà. Et ça, j'ai eu ça. Et donc, ça, vraiment, il faut essayer de l'engranger également pour être accompagné. Là encore, faisant cela, j'ai été étonnée de trouver le faisant pour moi-même, de pouvoir à nouveau le faire pour les autres. Et ce qui était le comble, c'était de pouvoir le faire pour des personnes comme moi, et de pouvoir le faire pour des infirmières, des équipes opérantes, et même pour des oncologues. J'ai été amenée à là recadrer un oncologue que j'aime bien par ailleurs, et qui plus est l'a accepté. Mais qu'est-ce que j'ai fait
par recadrer?
Eh bien, lui dire qu'il n'était pas qu'un spécialiste, un expert du cancer du sein, qu'il était aussi un animateur de ses équipes et qu'il fallait qu'il soit le meilleur pour qu'elle soit le meilleur, et qu'il avait besoin là d'écouter ce que j'avais à lui dire, c'est-à-dire le ramener à la dimension humaine et pas qu'à la dimension mécanique. Et bon, je pense que de la manière dont je l'ai fait, pas agressive, juste, me semblait-il nécessaire, d'absolue nécessité pour moi et les autres, eh bien, miracle, ça a été accepté.
Ouais, ça fait partie de ton talent que de savoir faire passer à des figures d'autorité des informations qui modifient un peu leur cadre de référence et qui les dérangent. Bon, ça fait partie de tes talents, oui, ça c'est sûr.
Autre chose, parce que je sens que tu essaies de tirer un fil, là, peut-être, et auquel moi j'ai pas forcément réfléchi, parce que j'étais à nouveau dans une espèce d'urgence, dans quelque chose, certes, que j'étais acceptée, mais où il fallait à nouveau protéger le corps, protéger les proches, et accueillir tout ce qui pouvait accompagner. J'ai parlé de mon réseau d'amitié, mais il était clair advenu même. Et il y a ensuite ce qui est ce que j'appelle les petites lumières. Et quand j'ai parlé d'un tunnel, de l'enfer de ce tunnel, il y avait quand même des petites flashs de lumière. Et celle-ci, je m'y accroche comme quelque chose de positif. Je m'y suis en tout cas accrochée ainsi, pour les reprendre. Quand je pouvais avoir des espaces de pause, je dirais, un peu plus libre en tout cas, j'avais toujours mon carnet et mon crayon. Tout comme j'ai tellement invité souvent les gens en difficulté de faire confiance à leur crayon et à leur support pour le débordement. Eh bien, je l'ai utilisé comme ça, tant en mots que lorsque c'était plus agréable, enfin plus en respiration, je vais dire, en dessin. Et ces dessins, je disais que un jour, après, j'en ferai quelque chose. Hein. Et donc, il y a toujours cette nécessité, et en tout cas cette invite à faire confiance en soi et à tout ce que l'on est, à tout ce que l'on est, y compris à nos intuitions, à ces choses qu'on n'a pas apprises, mais qui nous font des signes. On rejoint presque les heureux hasards. Hein? Donc ça, vraiment les accueillir et se faire confiance. Alors, c'est beau de le dire ainsi. Ça ne va pas toujours au bout, mais c'est aussi pouvoir faire ce morceau de chemin, même si c'est le dernier, d'une façon pleine et entière, même si notre corps et notre résistance est agressée.
Mais écoute, je trouve que tu as fait une belle conclusion de notre entretien et conclusion de ton parcours. C'est exactement ça, et je trouve que tu as très bien su exprimer le côté heuristique qu'il y a dans ta personnalité. Ah. Et ce côté, cette invitation que tu fais aux autres à profiter de ce qu'ils sont, profiter de leur dimension au lieu de se focaliser sur ce qu'ils pensent qu'il faudrait qu'ils soient pour être bien. Et je pense que ton témoignage est fort parce que tu as prouvé que tu étais capable de ça et que d'une certaine façon, c'était la seule façon pour survivre. Que ça t'a permis de survivre et de vivre. Et maintenant, c'est le cas de le dire, tu te retrouves à un moment de ta vie où il y a encore plein de choses à découvrir et à vivre.
Oui, c'est vrai. Et quelque chose que j'ai remarqué là, oui, avec le fait de retrouver des perspectives tout en étant une autre, parce qu'on ne peut pas être exactement celle d'avant, mais oui, de le faire un peu différemment, et en tout cas avec une liberté d'action, d'agissement encore accrue. Et c'est encore confirmé, validé par le fait qu'il y a eu des rencontres nouvelles, imprévisibles, improbables, incroyables. Eh bien, elles ont été.
Elles ont été et elles seront, et il y en aura d'autres. Et bien, c'est ça qui est formidable. Donc, Aimé, je te remercie beaucoup pour cet entretien, et je pense que ça intéressera nos auditeurs, les auditeurs de Et Maintenant, que tu fournis un bel exemple de Et Maintenant. Et ce que j'ai dans la main est tu, et ce que je peux donner, offrir et partager.
C'est bien ça. Il n'y a pas d'erreur, et tout ça est authentique, et je savais que avec toi ça pouvait fonctionner. Et à nouveau, ça ne se fait pas tout seul.
Bien. Merci et à bientôt.